Jules Verne, Maître du Monde. Chapitre 11. En campagne. Ainsi, l'introuvable capitaine venait de réapparaître en un point du territoire des États-Unis. Il n'avait été se montrer ni sur les routes, ni sur les mers de l'Europe. Tout cet Atlantique, qui lui mit moins de 4 jours à traverser, il ne l'avait pas franchi. Était-ce donc la seule Amérique dont il faisait le théâtre de ses expériences? Et devait-on en conclure qu'il fût américain? Qu'on ne s'étonne pas si j'insiste sur ce point que le submersible aurait pu franchir la vaste mer qui sépare le nouveau de l'ancien continent. Sans parler de sa vitesse, qui lui assurait un voyage de courte durée, comparé à la marche des plus rapides paquebots de l'Angleterre, de la France ou de l'Allemagne, il n'avait en somme rien à craindre des mauvais temps qui désolent ces parages. La houle n'existait pas pour lui. Il lui suffisait d'abandonner la surface des eaux pour trouver le calme absolu à quelques vingtaines de pieds au-dessous. Mais enfin, il ne l'avait pas tenté, ce voyage à travers l'Atlantique. Et si sa capture réussissait, ce serait dans l'Ohio probablement, puisque Toledo est une des villes de cet état. Du reste, le secret avait été bien gardé entre l'hôtel de la police et l'agent de qui était venue la nouvelle, et avec lequel j'allais être en relation. Aucun journal, et il l'eût payé cher, n'en avait eu la primeur. Il importait qu'elle ne fût point dévoilée avant que cette campagne eût pris fin. Nulle indiscrétion ne serait commise, ni par mes compagnons, ni par moi. L'agent auquel j'étais adressé, avec un mandat de M. Ward, se nommait Arthur Wells, et m'attendait à Toledo. On le sait, nos préparatifs de départ étaient faits depuis quelque temps déjà. 3 valises peu encombrantes, pour tout bagage, en prévision de ce que notre absence risquait de se prolonger. John Hart et Nab Walker s'étaient munis de revolvers de poche. Je fis comme eux. Qui sait si nous n'aurions pas à attaquer, ou même à nous défendre. La ville de Toledo est bâtie à l'extrême pointe du lac Erie, dont les eaux baignent les côtes septentrionales de l'Ohio. Le rapide, où 3 places nous avaient été réservées, traversa pendant la nuit la Virginie orientale et l'Ohio. Nous n'eûmes à subir aucun retard, et dès 8 heures du matin, la locomotive s'arrêtait en gare de Toledo. Sur le quai attendait Arthur Wells. Prévenu de l'arrivée de l'inspecteur principal Strock, il avait, ainsi qu'il me l'apprit, grand hâte de s'être mis en rapport avec moi, et je lui rendais bien l'appareil. À peine avais-je mis pied à terre que je devinais mon homme, occupé à dévisager les voyageurs. J'allais à lui. « Monsieur Wells, dis-je. « Monsieur Strock, me répondit-il. « Moi-même. À votre disposition, ajouta Monsieur Wells. « Devons-nous rester quelques heures à Toledo ? Demandai-je. « Non, avec votre permission, Monsieur Strock. Un break attelé de 2 bons chevaux est dans la cour de la gare. Et il faut partir à l'instant, afin d'être sur place avant le soir. « Nous vous accompagnons, répondis-je, en faisant signe à mes 2 agents de nous suivre. Allons-nous loin ? Une 20aine de milles. Et l'endroit se nomme ? La crique de Black Rock. Cependant, bien que nous dussions gagner au plus vite cette crique, il parut bon de choisir un hôtel où seraient déposées nos valises. Ce choix fut facile grâce à M. Arthur Wells, dans une ville qui compte 130 000 habitants. La voiture nous conduisit à White Hotel, et après un rapide déjeuner, dès 10 heures nous étions en route. Le break contenait 4 places, plus celle du coachman. Les provisions renfermées dans un de ces coffres devaient nous suffire plusieurs jours au besoin. La crique de Black Rock, absolument déserte, que ne fréquentaient ni les campagnards des environs, ni les pêcheurs, n'eût fourni aucune ressource. Pas une auberge pour y manger, pas une chambre pour y coucher. Nous étions en pleine saison chaude, dans ce mois de juillet où le soleil ne ménage pas ses ardeurs. Donc, rien à craindre de la température, s'il fallait passer 1 ou 2 nuits à la Belle Étoile. Très probablement d'ailleurs, si notre tentative devait réussir, ce serait l'affaire de quelques heures. Ou le capitaine de l'épouvante serait surpris avant d'avoir pu s'échapper, ou il prendra la fuite. et il faudrait renoncer à tout espoir de l'arrêter. Arthur Wells, âgé d'une quarantaine d'années, était un des meilleurs agents de la police fédérale. Vigoureux, hardi, entreprenant, plein de sang-froid, il avait fait ses preuves en maintes occasions, parfois au péril de sa vie. Il inspirait confiance à ses chefs, qui en faisaient grand cas. C'était pour une toute autre affaire qu'il se trouvait en mission à Toledo, lorsque le hasard venait le mettre sur la piste de l'épouvante. Sous le fouet du coachman, le break roulait rapidement, le long du littoral de l'Érier, et se dirigea vers sa pointe sud-ouest. Cette vaste plaine liquide est située entre le territoire canadien au nord et les États de l'Ohio, de la Pennsylvanie et de New York. Si j'indique la disposition géographique de ce lac, sa profondeur, son étendue, les cours d'eau qui l'alimentent, les canaux par lesquels s'épanche son trop-plein, ce n'est point inutile pour le récit qui va suivre. La superficie de l'Érier n'est pas inférieure à 24 768 km². Son altitude le place à près de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il est en communication par le nord-ouest avec le lac Huron, le lac Saint-Clair et la rivière Détroit, qui lui envoient leurs eaux. Il reçoit des affluents de moindre importance, tels le Rocky, le Guyahoga, le Black. Quant à son déversement, il s'effectue au nord-est dans le lac Ontario, entre les rives du Niagara aux célèbres chutes. La plus grande profondeur que la sonde ait déterminée dans l'Érier se chiffre par 135 pieds. On voit combien est considérable la masse de ces eaux. En somme, c'est ici, et par excellence, la région de ces magnifiques lacs qui se succèdent entre le territoire canadien et les États-Unis d'Amérique. Dans cette région, bien que située sous le 40e degré de latitude, le climat est très froid l'hiver, et les courants des régions arctiques, que nul obstacle n'arrête, s'y précipitent avec une extrême violence. On ne s'étonnera donc pas que l'Érier soit entièrement gelé à sa surface pendant la période du mois de novembre au mois d'avril de chaque année. Quant aux principales villes que possèdent les rives de ce grand lac, les voici. Buffalo, qui appartient à l'État de New York, et Toledo. L'une à l'est, l'autre à l'ouest. Cleveland et Sandusky, qui appartiennent à l'État de l'Ohio, au sud. En outre, des bourgades moins importantes, de simples villages, sont établis sur le littoral. Aussi, l'activité commerciale de l'Érier est-elle considérable, et le trafic annuel n'est pas évalué à moins de 2 200 000 $. Le break suivait une route assez sinueuse qui se raccordait aux multiples indentations de la rive. Tandis que le coachman poussait son attelage au grand trot, je m'entretenais avec Arthur Wells, et c'est ainsi que je fus mis au courant de ce qui avait motivé la dépêche adressée par lui à l'hôtel de la police de Washington. 48 heures avant, l'après-midi du 27 juillet, Wells se dirigeait à cheval vers la petite bourgade de Hurley, et à 5 000 de là, traversait un petit bois, lorsqu'il aperçut un sous-marin qui remontait à la surface du lac. Il s'arrêta, il mit pied à terre, et à l'abri d'un fourré, il avait vu, de ses yeux vus, ce sous-marin s'arrêter au fond de la crique de Black Rock. Était-ce l'insaisissable appareil qui venait d'émerger, puis d'accoster, celui des parages de Boston, celui du lac Kirdall? Lorsque ce submersible fut au bas des roches, deux hommes sautèrent sur la grève. L'un d'eux était-il ce maître du monde, dont on n'entendait plus parler depuis sa dernière apparition sur le lac supérieur? Était-ce cette mystérieuse épouvante qui revenait des profondeurs de l'Érier? J'étais seul, dit Wells, seul au fond de cette crique. Si vous aviez été là avec vos agents, monsieur Strock, à 4 contre 2, nous aurions pu tenter le coup, appréhender ces hommes avant qu'ils puissent se rembarquer et prendre la fuite. Assurément, répondis-je. Mais n'y en avait-il pas d'autres à bord? N'importe, si on avait tenu cela, peut-être aurions-nous appris qui ils étaient. Et surtout, ajouta Wells, si l'un d'eux était le capitaine de l'épouvante. Je n'ai qu'une crainte, Wells, c'est que ce submersible, quel qu'il soit, ait quitté la crique depuis votre départ. Nous le saurons dans quelques heures. et fasse le ciel que nous les retrouvions. Alors, à la tombée de la nuit, « Mais, demandai-je, vous n'êtes pas resté jusqu'au soir dans le petit bois ?»« Non, je suis parti vers 5 heures, et le soir j'arrivais à Toledo, d'où j'ai passé une dépêche à Washington. »« Hier, êtes-vous retourné à la crique de Black Rock ?»« Oui. » »« Le sous-marin y était encore ?»« À la même place. » »« Et les deux hommes ?»« Les deux hommes aussi. » »« À mon avis, quelque avarie à réparer les aura amenés dans cet endroit désert. » « C'est probable, dis-je. Une avarie qui les empêchait de regagner leur retraite habituelle. Puisse-t-il en être ainsi ?» J'ai lieu de le croire, car une partie du matériel avait été déposée sur la grève. Et autant que j'ai pu le constater sans donner l'éveil, il m'a semblé qu'on travaillait à bord. « Ces deux hommes seulement ?»« Seulement. » Et cependant, observai-je, était-ce là un personnel suffisant pour manœuvrer un appareil de grande vitesse, tant au bateau ou sous-marin ? Je ne le pense pas, monsieur Strock. Mais ce jour-là, je n'ai revu que les deux hommes de la veille. Plusieurs fois, ils vinrent jusqu'au petit bois où je me tenais caché. Ils coupaient quelques branches, ils faisaient du feu sur le sable. Cette crique est si déserte qu'ils ne pouvaient y être rencontrés, et ils devaient le savoir. Vous les reconnaîtriez ? Parfaitement. L'un de taille moyenne, vigoureux, les traits durs, toute sa barbe. L'autre trapu, plus petit. Puis comme la veille, je suis reparti vers 5 heures. Rentré à Toledo, on m'a remis un télégramme de Monsieur Ward, me prévenant de votre arrivée, et je suis allé vous attendre à la gare. Voici qui était formel. Depuis 36 heures, le submersible avait fait relâche à la crique de Black Rock, en vue de réparations indispensables probablement, et peut-être, par bonne fortune, l'y trouverions-nous encore. Quant à la présence de l'épouvante sur l'Érier, elle s'expliquait naturellement. Arthur Wells et moi nous dûmes en convenir. La dernière fois que l'appareil avait été vu, c'était à la surface du lac supérieur. Or, la distance entre ce lac et l'Érier, il avait pu la franchir soit par terre, en suivant les routes du Michigan, jusqu'à la rive occidentale du lac, soit par eau, en remontant le cours de Detroit River. Peut-être même entre deux eaux. Toutefois, son passage sur route n'avait point été signalé, bien que la police surveillât cet état avec autant de soin que n'importe quel autre du territoire américain. Restait donc l'hypothèse que l'automobile se fût changé en bateau ou en sous-marin. Dans ces conditions, le capitaine et ses compagnons auraient pu s'en donner l'éveil, atteindre les parages de l'Érier. Et maintenant, si l'épouvante avait déjà abandonné la crique, ou si elle nous échappait lorsque nous tenterions de l'arrêter, la partie serait-elle perdue? Je ne sais. En tout cas, elle serait très compromise. Je n'ignorais pas que deux destroyers se trouvaient actuellement au port de Buffalo, à l'extrémité de l'Érier. Avant mon départ de Washington, M. Ward m'avait avisé de leur présence. Un télégramme au commandant de ces destroyers suffirait, si besoin était de les lancer à la poursuite de l'épouvante. Mais comment la gagner en vitesse? Et lorsqu'elle se changerait en sous-marin? Comment l'attaquer à travers les eaux de l'Érier, où elle aurait cherché refuge? Arthur Wells convenait que dans cette lutte inégale, l'avantage ne serait pas pour les destroyers. Donc, dès la nuit prochaine, si nous ne réussissions pas, la campagne serait manquée. Wells m'avait dit que la crique de Black Rock était peu fréquentée. La route même qu'il conduit de Toledo à la bourgade de Hurley, quelques milles plus loin, s'en écarte à une certaine distance. Notre break, lorsqu'il arriverait à la hauteur de la crique, ne pouvait être aperçu du littoral. Après avoir atteint la pointe du bois qui la masque, il lui serait facile de s'abriter sous les arbres. De là, mes compagnons et moi, la nuit venue, nous viendrions prendre poste sur la lisière du côté de l'Érier, et nous aurions toute facilité d'observer ce qui se ferait au fond de la crique. D'ailleurs, M. Wells la connaissait bien, cette crique. Il l'avait plus d'une fois visitée, depuis son séjour à Toledo. Bordée de roches taillées presque à pic, que battaient les eaux du lac, la profondeur sur tout son périmètre mesurait une 30aine de pieds. L'épouvante pouvait donc accoster, soit immerger, soit émerger, le fond de la crique. À deux ou trois endroits, ce littoral, coupé de brèches, se raccordait avec la grève sablonneuse qui s'étendait jusqu'à la lisière du petit bois, sur une longueur de 200 à 300 pieds. Il était 7 heures du soir lorsque notre break, après une halte à mi-chemin, atteignit l'extrémité du bois. Il faisait trop jour encore pour gagner, même à l'abri des arbres, le bord de la crique. C'eût été s'exposer à être vu. Et en admettant que l'appareil fût encore à cette place, il aurait vite fait de prendre le large, à la condition toutefois que ses réparations fussent achevées. « Est-ce ici que nous faisons halte ?» demandai-je à Wells, lorsque le break s'arrêta à la lisière du bois. « Non, monsieur Strock, » me répondit-il. « Mieux vaut établir notre campement à l'intérieur. Nous sommes certains de ne pas être dépistés. La voiture peut-elle circuler sous ces arbres ?»« Elle le peut, » déclara Wells. « J'ai déjà parcouru ce bois en tous sens. Dans une clairière, à 500 ou 600 pas d'ici, nos chevaux trouveront à pâturer. Dès que l'obscurité le permettra, nous descendrons la grève jusqu'au pied des roches qui encadrent le fond de la crique. » Il n'y avait qu'à suivre les conseils de Wells. L'attelage, conduit par la bride, mes compagnons et moi à pied, nous franchîmes la lisière. Les pins maritimes, les chênes verts, les cyprès irrégulièrement groupés se pressaient à l'intérieur. Sur le sol s'étendait un épais tapis d'herbe mêlé de feuilles mortes. Telle était l'épaisseur des hautes frondaisons que les derniers rayons du soleil, au moment de disparaître, ne parvenaient point à les pénétrer. De route, de sentier même, on ne voyait trace. Cependant, non sans quelques heures, le break eut atteint la clairière en moins de 10 minutes. Cette clairière, entourée de grands arbres, formait une sorte d'ovale que revêtait une herbe verdoyante. Il y faisait jour encore, et l'ombre ne l'envahirait que dans une heure. Le temps ne manquerait donc pas pour organiser la halte et nous reposer d'un voyage assez fatigant, sur une route passablement caouteuse. Assurément, notre désir était impérieux de gagner la crique, de voir si l'épouvante était toujours là. Mais la prudence nous retint. Un peu de patience, et l'obscurité permettrait d'atteindre la crique sans risquer d'être aperçu. Ce fut l'avis de Wells, et il me parut bon de m'y conformer. Les chevaux, dételés et laissés libres sur le pâturage, resteraient sous la garde de leur conducteur pendant notre absence. Les coffres du break ouverts, John Hart et Nab Walker en tirèrent des provisions qui furent déposées sur l'herbe au pied d'un superbe cyprès, lequel me rappelait les essences forestières du district de Morgantown et de Pleasant Garden. Nous avions faim, nous avions soif. Le boire et le manger ne feraient pas défaut. Puis, les pipes furent allumées en attendant l'instant de partir. Silence complet à l'intérieur du bois. Les derniers chants d'oiseaux avaient cessé. Avec le soir, la brise tombait peu à peu, et les feuilles tremblaient à peine aux pointes des plus hautes branches. Le ciel s'assombrit rapidement dès le coucher du soleil, et l'obscurité succéda au crépuscule. Je regardai ma montre. Elle marquait 8h30. Il est temps, Wells. Quand vous voudrez, monsieur Strock. Partons alors. Recommandation expresse fut faite au conducteur de ne point laisser ses chevaux s'éloigner du pâturage pendant notre absence. Wells prit les devants. Je marchais derrière lui, suivi de John Hart et de Nab Walker. Au milieu des ténèbres, nous aurions eu grand-peine à nous diriger si Wells n'eût servi de guide. Enfin, nous sommes sur la lisière du bois. Devant s'étend la grève, jusqu'à la crique de Black Rock. Tout est silencieux, tout est désert. On peut se hasarder sans risque. Si l'épouvante est là, c'est au revers des roches qu'elle a dû prendre son mouillage. Mais y est-elle encore? C'est la question, la seule, et je l'avoue, à l'approche du dénouement de cette passionnante affaire, le cœur me bat dans la poitrine. Wells fait signe d'avancer. Le sable de la grève crie sous nos pas. 200 pas à faire, quelques minutes suffisent, et nous voici à l'entrée de l'une des passes qui conduisent au bord du lac. Rien, rien. La place où Wells a laissé l'épouvante 24 heures avant est vide. Le maître du monde n'est plus à la crique de Black Rock.